Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec votre invité jusqu'à 20h, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Vos questions au standard d'Europe 1, 39-21.
Et il y en a déjà beaucoup, mais juste avant, je voudrais me permettre de rajouter une question. Je vois Grégoire, André, Philippe et Marianne qui vont intervenir tout de suite, puisque nous parlions des européennes. Je regardais que ce soit la France Insoumise, que ce soit Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, et je lui ai posé la même question il y a deux jours. Plusieurs listes, y compris du côté du Rassemblement National, ont essayé de récupérer, de sympathiser avec le mouvement Gilets jaunes. Ça ne semble pas vous avoir apporté en intention de vote.
Non, je crois que ça compte assez peu. Vous savez, ce mouvement des Gilets jaunes, il porte en lui des revendications qui sont très nettes. Et je crois que mal inspiré, ceux qui essaieraient d'en faire justement la récupération. On nous a beaucoup dit qu'on faisait de la récupération. En vérité, non, on a juste dit qu'on saluait le fait que des citoyennes, des citoyens récupèrent la politique. Parce que c'est ça qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez des gens qui ne se mêlaient pas de politique. Et nous, on passe notre temps à expliquer que précisément la politique est bien l'affaire de tous et qu'il faut donc que chacun s'en mêle, qu'on décide là de reprendre voix au chapitre. Pour moi, se retrouver sur des ronds-points, discuter collectivement de revendications communes, organiser l'action collective, ça n'est rien d'autre que faire de la politique.
Mais certains ont accueilli des gilets jaunes sur leur liste, comme M. Philippot, ou très récemment, ou M. Dupont-Aignan. D'autres se sont lancés tout seuls. Par exemple, la liste gilets jaunes qui a été déposée, il y en a une déjà au moins, et qui sera menée par Francis Lalanne. C'est un concurrent pour la France Insoumise ?
Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Je n'ai pas encore regardé quel était son programme. Je pense qu'assez clairement aujourd'hui, au vu des revendications de ce mouvement, en matière de justice fiscale et sociale, mais même au-delà, sur les questions de démocratie, il apparaît assez clairement que le programme de la France Insoumise, d'ailleurs, qui était celui de 2017 déjà, est plus que compatible avec la majorité de ses revendications. J'ai vu des enquêtes, alors je prends toujours ça avec beaucoup de pincettes, mais qui disaient que, selon les Français, le mouvement qui incarnait le plus les revendications des Gilets jaunes était la France Insoumise. Bon, mais encore une fois, j'aime pas trop épiloguer là-dessus parce que je veux pas donner l'impression qu'on cherche à récupérer un mouvement qui est salutaire dans sa forme et surtout dans le fait qu'il porte des revendications nettes, qui d'ailleurs, au-delà même du mouvement, c'est ça qui est important. C'est que vous avez les Français qui ont mis le gilet jaune, mais il y a tous ceux qui ne l'ont pas mis et qui pour autant signifient qu'ils sont d'accord avec les problèmes soulevés par les gilets jaunes. Je crois que sur le RIC ou sur l'ISF, les deux revendications parmi les principales qu'Emmanuel Macron a balayées d'un revers de la main, vous savez qu'une majorité de Français, a priori, était plutôt favorable. Donc c'est ça l'essentiel, je crois. C'est les mots d'ordre mis en circulation. Ils ne s'y trompent pas. De la même manière que les jeunes qui marchent pour le climat, si vous regardez leurs pancartes, ne s'y trompent pas non plus. Ils mettent bien en cause un modèle économique et disent pas juste à M. Macron de verdir sa politique.
Marianne est avec nous en ligne dans la Drôme à Valence au 39-21. Bonsoir Marianne.
Oui, bonsoir.
Vous êtes cadre dans la banque, vous êtes au 39-21 avec nous. Soyez la bienvenue Marianne. Adrien Quatennens vous écoute.
C'est gentil, bonjour à tous. Oui, Adrien, je suis ravie qu'il y ait des jeunes qui se lancent dans la politique comme vous depuis quelques années. Je voulais vous parler de votre programme sur la réorganisation de l'économie de la France. D'après ce que j'ai lu, pour vous, vous voudriez que tous les gens travaillent moins pour gagner plus, pour répandre la richesse partout. Et il faudrait réorganiser l'économie et réindustrialiser la France. Alors j'aimerais bien savoir quels sont vos projets et quelle sorte d'entreprise vous allez créer pour réindustrialiser la France.
Adrien Quatennens.
Bonsoir Marianne et merci beaucoup pour votre question. Alors nous disons que en matière climatique, ce dont il a été d'ailleurs assez peu question, vous en conviendrez lors de la conférence de presse du président de la République, les scientifiques nous disent, moi je ne suis pas scientifique hein, Marianne, je fais de la politique, mais je me nourris notamment de ce que nous disent les scientifiques. Ils nous disent, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Dès lors, chacun comprend que si c'est dans cet espace-temps que la décision doit se prendre et que l'application de cette décision doit se faire, il faut avoir des décisions politiques à la hauteur de la situation. Nous faisons de la question climatique le cœur d'un programme et nous pensons que, plutôt que maintenir le modèle de la concurrence libre et non faussée qui interroge même d'ailleurs le sens du travail aujourd'hui, nous voulons effectivement demander au pays de se lever chaque matin pour accomplir et relever ce défi de la transition écologique. Et on ne peut pas le faire avec l'écologie des petits pas, on a besoin de prendre de grandes décisions. Donc nous en appelons à la planification écologique, planifier dans le sens où on se dote d'objectifs, d'un calendrier, et pour cela, ensuite, évidemment, il s'agit de revoir le modèle de consommation, de production, de distribution. Alors je vous donne quelques exemples. Par exemple, si on veut passer à un modèle agricole qui aujourd'hui est intensif en chimie, qui empoisonne les agriculteurs et nos assiettes, qui est un modèle, je pense, qui est à bout de souffle, et passer à l'agriculture paysanne, les techniques existent, les savoir-faire existent, eh bien ça demande à remettre beaucoup de monde au travail. Nous, on a chiffré à peu près à 400 000 le besoin de paysans. Ça fait du monde à former, ça fait donc aussi des formations à créer. De la même manière, sur l'énergie, si vous faites la transition écologique, c'est aussi un grand vivier d'emploi. Les compétences existent, les savoir-faire existent, mais il s'agit aujourd'hui de mettre tout ça à l'action et bien évidemment de ne plus simplement répondre à l'injonction du moins cher, parce que souvent, le moins cher, c'est le moins-disant social, le moins-disant environnemental. Raison pour laquelle, j'en termine, si nous disons que nous voulons augmenter les salaires, mieux payer les gens, c'est pour aussi avoir de la consommation qui soit de meilleure qualité. Nous faisons le pari que la relance de l'activité est possible, mais non pas sur une base productiviste, mais bien sur le fait de relever ce défi climatique. Et je pense que c'est plus enthousiasmant comme projet politique que faire des économies.
Vous n'êtes pas spécialement décroissant.
Bah, je pense qu'il faut interroger la croissance pour la croissance. Vous savez, vous creusez un trou, ça fait du PIB. Un accident de voiture sur le périphérique parisien, ça crée du PIB. Donc je crois qu'un modèle basé sur l'idée de croissance ne fonctionne pas. Après, du point de vue économique, bien évidemment, qu'une industrie, y compris écologique, va créer une augmentation du PIB. Mais c'est vrai, avoir pour modèle la poursuite de la croissance, pour la croissance, je crois que c'est de plus en plus insensé.
Merci Marianne, merci de votre appel depuis la Drôme ce soir au 39-21. Il est 19h28.
Europe 1.
On revient dans quelques secondes avec Adrien Quatennens et vos questions au 39-21 ce soir sur le hashtag Europe 1 également. N'hésitez pas, vous serez en direct avec nous.
Vous êtes avec Mathieu Béliard sur Europe 1 et vous échangez jusqu'à 20h au 39-21 avec Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord.
Adrien Quatennens, nous allons accueillir André qui est au 39-21 avec nous depuis Strasbourg ce soir. Bonsoir André.
Bonsoir, bonsoir Monsieur Quatennens. Moi je me posais une question. Comment allez-vous articuler les moyens européens mis à votre disposition pour défendre ce que vous... d'expliquer toujours défendre les plus défavorisés, ceux qui sont les moins nantis et les moins privilégiés, alors que vous allez avoir 10, 12, peut-être 13 ou 14 députés noyés dans 700 ou 800 députés européens, et dans une Europe elle-même noyée de plus en plus dans un monde de plus en plus agressif, de plus en plus fort au niveau de nos adversaires, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, en n'oubliant pas deux autres pays montants très importants comme le Brésil et l'Inde. Qu'allez-vous faire avec vos 12, 13, 14 députés pour défendre les plus modestes, noyés dans une double masse, et comment allez-vous utiliser les moyens européens qui sont très peu adaptés à la défense des moins favorisés ?
Bon, je pense que d'abord, bonsoir André, d'abord je pense que vous posez le bon diagnostic, c'est-à-dire que l'idéal européen, auquel je veux bien souscrire, est un idéal de coopération entre les peuples, et aujourd'hui quand on regarde, il n'en subsiste qu'un marché, qui organise méthodiquement d'ailleurs le dumping social et fiscal. S'il fallait résumer à grands traits la manière dont moi je vois les choses, en fait on a empaqueté entre des traités qui interdisent, c'est écrit dans les traités, qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, des pays qui ne sont pas harmonieux, on leur a dit « battez-vous entre vous que le meilleur gagne ». Raison pour laquelle aujourd'hui ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il suffit de s'asseoir et de regarder pour voir que l'Union européenne est en train de se disloquer. Et le Brexit en est un des symptômes, et c'est certainement pas la France insoumise qui a poussé au Brexit. Donc je crois que précisément, ce qui pousse à la dislocation de l'Union européenne sont ses tenants actuels. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire véritablement ? Bon. Nous, au niveau national, dans le cadre d'une élection présidentielle, nous voudrions instaurer une discussion avec nos partenaires pour dire on ne peut pas continuer avec ces traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. En attendant, à l'échelle du Parlement européen, même s'il faut avoir la revendication claire de dire qu'on ne peut pas mener une politique, c'est vrai, sociale et écologique ambitieuse dans le cadre des traités, sur l'écologie, pour rebondir avec la question de Marianne, concrètement, vous voulez faire la planification écologique, vous avez besoin d'investir énormément d'argent. Le GIEC dit 2100 milliards à l'échelle de la planète. C'est plus d'une centaine de milliards à l'échelle du pays. Avec les 3% de déficit imposés par les traités, c'est simple, vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez interdire le glyphosate dans votre pays ? Du coup, il faut empêcher que le glyphosate des autres pays rentre dans votre pays. Les traités vous en empêchent. Donc, première chose à dire, on ne peut pas faire de transition.
Vous êtes, Adrien Quatennens, sur cette question précisément, vous êtes pour un protectionnisme français,
solidaire,
en termes agricoles.
Quand on dit protectionnisme français, on pourrait croire que c'est quelque chose de chauvin. Non, l'idée, c'est si on doit surseoir à des objectifs, notamment sociaux et climatiques, il faut se doter d'un certain nombre de règles et on peut interroger le fait que certains produits arrivent chez nous. Avons par exemple besoin du coton ouzbek, je prends cet exemple, dont on sait qu'il y a par exemple du travail des enfants. C'est pour ça que je dis protectionnisme solidaire, parce qu'il ne s'agit pas simplement uniquement de protéger son économie, mais d'essayer de mettre en partage des pratiques vertueuses.
Il faudra ensuite,
et de l'intérêt du coup d'envoyer des députés combatifs, des députés de combat au Parlement européen, et vous pourrez le faire avec la liste de la France insoumise, c'est que quand on regarde au sein du Parlement européen, André, par exemple, le paquet ferroviaire qui fait que On nous a imposé l'ouverture à la concurrence du rail, qui va faire que beaucoup vont pâtir, notamment de fermetures de petites lignes. Notez, André, que ce paquet ferroviaire, il aurait pu être rejeté au Parlement européen, je crois, à 15 ou 20 voix près.
Tout à fait.
Donc ça sert d'avoir des parlementaires européens qui luttent contre cette logique-là. De la
quand
même manière...
Quand vous dites « on nous l'a imposé », il faut toujours faire attention, parce que
il y a
d'énormes
que...
soucis démocratiques peut-être dans l'Union européenne, on pourrait en discuter des heures, mais bah, les gens qui prennent ces décisions...
Mathieu Béliard, vous avez en face de vous un représentant du peuple à l'Assemblée nationale, à vous peu près la moitié des lois qui nous sont proposées à l'Assemblée sont traduites de directives. Vous prenez l'essentiel des lois qu'on fait parler.
Qui les produit, qui les écrit, ces directives?
Effectivement. Notamment, effectivement, les gouvernants et les présidents des différents pays et la Commission.
Qui ont été démocratiquement élus.
Mais vous savez très bien qu'au sein de la Commission
européenne...
C'est
peut-être défaillant, mais je veux dire, c'est pas non plus un système autoritaire.
Défaillant, tous vos auditeurs comprennent que quand un représentant du peuple à l'Assemblée a notamment à statuer sur ce qui est le cœur de notre activité, le budget de l'État, mais que ces budgets sont d'abord soumis à la validation de la Commission, tout le monde voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que Mme Loiseau peut nous chanter toutes les louanges à l'Europe qui protège, mais quand on regarde de près, est-ce que l'Europe protège la démocratie dans ces conditions actuellement? La réponse est non. Est-ce que l'Europe protège les droits sociaux quand on encourage au dumping social avec notamment le travail détaché? La réponse est non. Est-ce que l'Europe protège l'environnement quand elle empêche d'investir pour faire la transition écologique? Donc, il faut véritablement en finir avec ces traités et je pense qu'on peut faire autrement avec d'autres. Raison pour laquelle nous ne sommes pas isolés, parce que figurez-vous, André, que beaucoup dans l'Union européenne partagent nos vues sur la nécessité de sortir des traités. Raison pour laquelle nous menons d'ailleurs campagne européenne dans le cadre d'une coalition européenne qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec nos alliés espagnols, portugais, pour justement montrer qu'il y a une cohérence là-dessus. Ensuite, regardez, pour terminer, André, une autre solution aussi. Moi, par exemple, je voudrais qu'au Parlement européen, nos députés puissent faire adopter une clause de non-régression sociale qui ferait que aucune directive européenne, si elle est moins favorable aux travailleurs notamment que les lois nationales, eh bien, ne puisse s'imposer à nous. Voilà, je pense qu'il faut aller vers une harmonisation par le haut et pas par le bas.
Vous organisez avec des listes européennes d'autres pays. Alors qu'en France, on a quand même beaucoup de listes de gauche avec beaucoup de points communs, des différences certainement, mais beaucoup de points communs.
Bah oui, mais
et vous n'arrivez pas à vous entendre.
Mais votre réponse, c'est dans la question, Mathieu Béliard, c'est qu'à l'échelle européenne, ceux avec qui nous sommes dans la coalition Maintenant le Peuple, partagent, malgré leurs différences de parcours, de culture politique, un socle commun important. C'est cette question des traités. Moi, je vous le dis à votre micro ce soir, que tout le monde l'entende. Ceux qui vous racontent qu'on peut faire l'Europe sociale et écologique et qui ne mettent pas en cause ces traités... soit sont naïfs et chantent des comptines enfantines dénuées de sens, ou alors, ce qui serait plus grave, mentent sciemment. Moi, je vous le dis, on ne peut pas faire l'Europe sociale, on ne peut pas faire l'Europe écologique avec des traités qui imposent à tout le monde l'ordolibéralisme. Mmh. Et quand je vois que notre eurodéputé Younous Omarjee a réussi, alors qu'il est pour le coup assez seul, a réussi à batailler... contre la pêche électrique notamment, eh bien je me dis que oui, un beau groupe fait du même bois que celui que vous avez à l'Assemblée nationale avec les députés insoumis au Parlement européen serait bien utile par les temps qui courent.
André, merci beaucoup. Merci de votre appel au 39-21. André en direct ce soir. Mathieu et Philippe sont en attente. On va les prendre dans un instant. Il est 19h36.
Europe 1.
Vos questions jusqu'à 20h pour Adrien, jusqu'à 20h pour Adrien Quatennens, député de la France insoumise du Nord, au 39-21 et sur le hashtag Europe 1.
À vos côtés, Mathieu Béliard, jusqu'à 20h sur Europe 1. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Vous posez vos questions standards d'Europe 1, 39-21, 50 centimes la minute.
Et Mathieu est en ligne avec nous, Adrien Quatennens. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Europe 1, Mathieu.
Merci.
Votre question pour Adrien Quatennens.
Bonsoir monsieur le député.
Bonsoir Mathieu.
Voilà, moi je suis fonctionnaire de police. Et je vous appelle parce que j'ai des questions concernant ces derniers 6 mois... par rapport à tous les mouvements sociaux qui ont pu se passer. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que la France insoumise va pouvoir faire et pour les policiers français. Et au niveau, donc, vous êtes un peu en train de présenter votre liste européenne, qu'est-ce que vous comptez faire aussi pour les policiers au niveau de l'Europe? Puisque, depuis 2003, il y a un décret qui dit que pour le temps de travail, les policiers sont aussi concernés. Enfin, la France a été condamnée en 2015 et a été sommé de faire un décret, chose qui a été faite en 2017, sauf que les fonctionnaires de police à l'heure actuelle, ça fait 2 ans qu'ils attendent que ce décret soit mis en application. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous, en tant que député de la France Insoumise, vous comptez faire?
Bonsoir Mathieu, et merci pour votre question. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que beaucoup de ceux qui participent au mouvement de contestation populaire contre la politique du gouvernement ne s'y trompent pas. et savent bien que les fonctionnaires de police subissent aussi les conséquences de ces politiques. Je parlais tout à l'heure notamment de l'état des commissariats, et je pense que la plupart de nos concitoyens sont bien conscients de ça. C'est pourquoi nous mettons en cause les ordres politiques qui sont donnés. Nous savons que parmi les fonctionnaires de police, d'ailleurs, beaucoup subissent ces ordres, et on voit ensuite le résultat que l'on a pu voir notamment hier. La première chose à dire, c'est que, et qui est rarement dite, c'est que les fonctionnaires de police, je crois, ont quelque chose comme des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc, il serait d'abord temps que les heures supplémentaires leur soient payées. Ensuite, bien évidemment, pour faire la connexion avec le niveau européen, Mathieu, vous dire que globalement, compte tenu de la manière dont fonctionnent les traités européens et notamment cette fameuse question des 3% de déficit, s'il fallait résumer, Mathieu, quel que soit le secteur concerné, des services publics, mais même finalement, globalement, toute la politique du gouvernement, même quand M. Blanquer vient nous parler d'éducation avec un air inspiré sur un projet éducatif, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, la seule politique qui est tentée, c'est de faire des économies. Et moi, je dis, Mathieu, que faire des économies, ça n'est pas un projet politique. Et que oui, nous avons besoin de fonctionnaires de police. Et qu'on aurait bien besoin de revenir aux effectifs que l'on connaissait avant l'ère 2007, notamment. Qu'on aurait besoin donc de moyens humains, qu'on aurait besoin également de moyens matériels, et je pense notamment à l'état délabré de beaucoup de commissariats. Et que, évidemment, que la question budgétaire, au niveau européen, pose problème en la matière. Nous avons, nous, un programme détaillé sur les questions de sécurité, un livret de la France Insoumise. Je vous invite à aller le voir. On appelle à un retour à la raison et véritablement à prendre considération du fait qu'il y a un manque de moyens et que les fonctionnaires de police subissent aujourd'hui, dans le cadre des mouvements sociaux, les consignes absurdes qui leur sont passées.
Mathieu ?
Oui ?
Oui, si la réponse d'Adrien Quatennens vous convient, et puis moi j'ai une question subsidiaire, dans les rangs de la police, j'en profite, un fonctionnaire de police en direct avec nous, ouais. Quel regard est-ce qu'on porte aussi sur la France Insoumise, pas Adrien Quatennens seulement, mais sur ce mouvement-là ?
Bah écoutez, vous faites bien de me poser la question, puisque finalement, même si j'avais le droit qu'à une question, j'aurais quand même eu envie de poser celle-ci. Du coup, nous, dans les rangs de la police, on est quand même assez étonnés que la France Insoumise soit... pas trop partisane pour la police, parce que assez souvent on essuie plutôt des critiques de votre parti. D'ailleurs, je suis assez étonné que, de par votre chef de parti, qui a quand même brigué le plus haut poste de l'État il n'y a pas si longtemps que ça, à l'occasion des élections présidentielles, qui ne condamne pas les dernières violences qui sont encore celles d'hier, à la Pitié-Salpêtrière, ou les différents samedis qui ont pu se passer. Je veux dire, évidemment, on est en mesure de savoir qui sont les fauteurs de troubles, les Black Blocs, peut-être même des Gilets jaunes qui se sont radicalisés, mais jamais, à part au début du mouvement où on vous a pas mal vu dans les médias et condamné tout ce que M. Castaner, notre chef, nous demander de faire, mais à quel moment vous avez quand même apporté votre soutien? Là, j'entends quand même que vous avez un discours qui est assez modéré et qui a l'air quand même sensé par rapport aux effectifs, aux moyens, mais on vous entend plus et pas sur ce sujet-là. Vous condamnez jamais et jamais vous allez quand même faire en sorte de faire comprendre que les policiers sont là et sont les derniers remparts.
Alors, Mathieu, si vous me permettez, d'abord... vous dire une chose, dont nous sommes sûrs, c'est qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans la justice sociale, et que par conséquent, vous pouvez condamner tout ce que vous voulez. Je pense que ce gouvernement, par exemple, porte la responsabilité du fait que des gens qui ont démarré ce mouvement de contestation pacifiquement ont fini, par impatience, par penser que la violence est une solution. Moi, je vous le dis, Mathieu, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, tous les responsables de la France Insoumise vous le diront, nous ne pensons pas que la violence soit la solution et nous ne sommes absolument pas favorables aux stratégies de violence en politique. Nous croyons que les bonnes mobilisations sont des mobilisations de masse, déterminées, mais pacifiques, et que celles-ci sont en mesure d'avoir un rapport de force favorable face au gouvernement. Mais je vous le dis, Mathieu, solennellement ce soir, je suis persuadé que ce gouvernement porte la responsabilité du fait qu'à cette heure, il y ait des gens qui aient choisi la violence, pensant que rien d'autre n'est efficace. C'est un problème. Si nous avions une réponse politique au début du mouvement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ensuite, oui, je remets en cause, les fonctionnaires de police.
Il y a eu des réponses quand même.
Vous voulez qu'on parle de la prime d'activité, Mathieu Béliard ?
On parle de 17 milliards d'euros, alors c'est peut-être pas suffisant.
Mathieu Béliard, la prime d'activité, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, pour ne pas se détourner de la question de Mathieu, la prime d'activité, c'est la subvention au contrat précaire et au bas salaire. Ça n'est pas une solution, c'est une rustine sur le pneu crevé. Donc ça ne fonctionnera pas.
Les heures supplémentaires, par exemple, que
vous ne soutenez
pas.
Quand il y a autant de chômage et quand il y a autant de contrats
d'accord,
précaires.
D'accord, mais il y a eu des réponses. Ce ne sont pas les vôtres, mais il y a eu des réponses.
On pourrait remercier les Gilets jaunes parce que c'est 10 milliards mis en circulation. Même si on peut discuter de comment ils ont été dépensés, ils ont eu un effet sur la fameuse croissance dont vous parliez. C'est-à-dire que M. Macron vient dire oui, alors il y a eu la prime Macron. Non, en réalité, c'est la prime Gilets jaunes parce que sans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu cette prime. Quoi qu'on en pense par ailleurs. Donc, Mathieu, moi, je vous invite à faire une chose, à bien comprendre que nous mettons en cause, c'est de la politique, c'est la question politique dont nous parlons. Et ce sont les responsables politiques que nous ciblons, pas les fonctionnaires de police. Mais oui, quand on a autant de blessés côté Gilets jaunes, quand on a des éborgnés, quand on a des mains arrachées, quand on a y compris des blessés côté policiers, le pouvoir politique porte une responsabilité. Et j'en termine, pour ce qui est du programme de la France Insoumise, si vous en avez la possibilité, allez ensuite taper sur Internet « Livrer sécurité de la France Insoumise », lisez notre projet politique, discutez-en avec vos collègues et vous verrez, je pense que, y compris dans votre maison, ça serait sans doute, ça se passerait mieux si nous étions aux affaires.
Adrien Quatennens répond à vos questions ce soir en direct au 39-21. Merci à Mathieu, fonctionnaire de police, d'avoir pris la parole ce soir au 39-21. D'un mot, juste vous le signaler, on a appris à la rédaction d'Europe 1, le service police-justice de la rédaction, que les 32 gardes à vue dans le cadre de l'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les 32 gardes à vue ont été levés. 19h45.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, vos questions pour Adrien Quatennens, 39-21 et le hashtag Europe 1.
Mathieu Béliard est sur Europe 1 et vous échangez jusqu'à 20h39-21 avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord.
Jean-Michel Tiens, Jean-Michel tout de suite, au 39-21, on va pas perdre de temps. Non, j'allais poser une question, mais je vous laisse la priorité, je l'ai dit. Jean-Michel est dans l'aube ce soir au 39-21. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Monsieur Mathieu, bonsoir Monsieur Quatennens.
Jean-Michel, vous êtes en haut-parleur ?
Oui.
Oui, est-ce que vous pourriez enlever le haut-parleur ou le kit main libre, qu'on vous entende bien, que tous nos auditeurs entendent bien votre question ?
Voilà.
Allez-y.
Ma question ?
Allez-y, oui, pour votre question, Jean-Michel.
Monsieur Quatennens, oui, vous avez déclaré que le ministre de l'Intérieur avait proféré un mensonge concernant l'hôpital en question. Je suis choqué du fait que vous et beaucoup d'autres commentateurs politiques confondent mensonge et erreur. Si on raisonne un tout petit peu, il est très peu probable que monsieur le ministre de l'Intérieur ait menti, parce que mentir, ça consiste à savoir la vérité et à ne pas la dire pour tromper autrui. Supposons une seconde que monsieur le ministre de l'Intérieur connaisse la vérité et la déforme pour tromper le public, l'opinion publique, mais il est évident qu'il aurait été très vite démenti, parce que tout se sait très vite qu'il y a des camions, et moins, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, etc.
Vous et demandez, donc, Jean-Michel, parce que la liaison n'est pas idéale, mais vous demandez finalement à Adrien Quatennens de laisser à M. Castaner le droit de se tromper, quoi, si je vous suis bien.
Se tromper, vous l'avez dit, Mathieu, bon. C'est le mot. Il s'est trompé, il n'a pas cherché à tromper autrui.
Adrien Quatennens. Mais c'est vrai qu'en termes de gravité, ça n'est pas la même chose, Adrien Quatennens.
Bonsoir, Jean-Michel, merci pour votre question. Alors, puisque vous avez l'air d'être friand de précision, figurez-vous que moi aussi. Et que personne ne peut raisonnablement croire que le ministre de l'Intérieur, premier flic de France, ne soit pas, normalement, sinon c'est inquiétant, le mieux informé de nous tous sur la situation. Et vous conviendrez avec moi, Jean-Michel, que quand on parle d'attaque, on parle du coup d'une cible délibérée. Or, depuis, les soignants, les journalistes qui ont fait le travail montrent ce qui s'est passé. J'ai moi, par ailleurs, des témoignages de personnes qui s'y trouvaient, qui indiquent qu'il y avait un effet de nasse dans une manifestation qui, on l'a dit, était plutôt nombreuse, et que des gens complètement désemparés par le déploiement de gaz lacrymogènes ont cherché à se réfugier. Et donc, d'ailleurs, pour certains, a priori, et selon les images que l'on peut voir, vous avez peut-être vu aussi, ne savaient même pas où ils se trouvaient. Et on voit d'ailleurs que quand des soignants s'opposent à leur entrée dans l'hôpital, ce qu'on peut bien sûr comprendre, en précisant que c'est un service de réanimation, qu'il y a des malades, on voit immédiatement les manifestants qui se trouvaient là, obtempérer aux injonctions du personnel soignant. Dès lors, je crois qu'il est déraisonnable et que c'est un mensonge éhonté que de parler d'une attaque. Et je persiste et signe à vous dire que précisément sur ce terme, M. Castaner a instrumentalisé la presse pour une nouvelle fois faire diversion et faire dire autre chose à un mouvement revendicatif qui se tenait hier dans le pays, et qu'en cela il n'est pas digne de sa fonction, et que comme cela est maintenant à répétition, il doit partir.
Vous exagérez comme toujours. Mais tout ce que vous avez dit concernant les preuves qu'il aurait menti, ce sont des choses qui ont été connues après coup et qu'il a très bien pu ne pas connaître.
Mais attendez, Jean-Michel,
il a tout de suite dit qu'il y avait une attaque à cause de quelques témoignages, et donc il s'est précipité. C'est son erreur. Il devrait déclarer publiquement qu'il s'est trompé. J'espère qu'il va le faire.
Bon, Jean-Michel, je ne désespère pas de l'idée de vous convaincre, mais notez bien que sur le terme d'attaque est extrêmement fort et qu'en tant que ministre de l'Intérieur, on ne parle pas d'une attaque si on a à connaissance même les quelques éléments qui étaient disponibles hier. Le rôle d'un responsable politique, c'est aussi, lorsque l'information n'est pas pleinement vérifiée, de faire preuve de retenue. D'ailleurs, pour d'autres faits, il y aura des enquêtes et moi, j'attends les conclusions de ces enquêtes. Ce que je peux dire ce soir, c'est qu'à la lumière du travail rigoureux qui a été fait par les journalistes et de ce que le personnel soignant présent sur les lieux a pu dire et des témoignages divers que nous avons, c'est que le terme d'attaque est un mensonge de la part du ministre, soyons clairs, et que ce terme est extrêmement fort et très connoté, notamment dans le moment que nous vivons. Donc je crois que, précisément, cela participe de la stratégie de diversion qui n'est plus acceptable, et que après ce que nous avions vécu lors du 1er mai de l'année dernière avec l'affaire Benalla, c'en est trop, la coupe est pleine. Voilà ce que je vous dis, Jean-Michel, ce soir.
Merci Jean-Michel qui est dans l'Aube et qui était en direct au 39-21. Je vais prendre Grégoire dans un instant, mais je voulais quand même, parce qu'on va arriver au terme de cette émission bientôt, vous demander très simplement quel est aujourd'hui Adrien Quatennens, ça n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, la position de la France insoumise sur le Venezuela.
Alors, écoutez, la position, s'il fallait la résumer en quelques secondes, c'est qu'on a un pays qui fait face à une crise démocratique et sociale sans précédent, et que je crois que les Vénézuéliens eux-mêmes doivent pouvoir régler la situation. Et d'ailleurs, ils avaient appelé à ce que des élections se tiennent. Le président Maduro avait accepté l'idée d'élections. Et moi, je crois qu'en la matière, le pire, c'est l'ingérence. Or, précisément, on sait qu'il y a une tradition putschiste en Amérique du Sud de la part des États-Unis d'Amérique. Bon, là, en l'occurrence, le putsch a fait pchit, si on voit ce qu'il en résulte, avec le président autoproclamé.
Il y a quatre morts.
Mais je crois véritablement que, par exemple, le rôle de la France en matière géopolitique, c'est d'être une puissance médiatrice et pour ça, de garder son indépendance dans le discours. Et quand M. Emmanuel Macron, par tweet compulsif, suit directement la logique de M. Trump, je crois que la France ne joue pas son rôle à l'international. Donc le rôle, c'est plutôt d'être une puissance médiatrice et de dire que la situation doit être réglée pacifiquement, démocratiquement et se garder de toute forme d'ingérence et ne pas être dupe, y compris de la situation qu'essayent d'obtenir les États-Unis d'Amérique.
D'accord. Il y a Trump d'un côté, il y a Poutine de l'autre, la position française avec Cuba, on a ce parfum d'années 60 quand même sur cette situation sud-américaine. En attendant, il y a du monde dans la rue quand M. Guaido appelle à la manifestation, il y a des manifestants dans la rue. Sans prendre position entre Maduro et Guaido, est-ce que le drame aujourd'hui, c'est que c'est pas que ce soit à l'armée d'arbitrer encore ?
Mais c'est au peuple de pouvoir arbitrer, j'en suis d'accord.
Donc,
vous voyez bien qu'on ne peut pas aujourd'hui, notre discussion ne peut pas être résumée, effectivement, entre le soutien à un président, M. Maduro, qui certes est contesté, mais qui est constitutionnel, et d'un côté, un auto-proclamé, M. Guaido.
D'accord.
Voilà, ça ne peut pas être ça le débat.
Il est contestable, Maduro, contesté, vous dites.
Mais
il est contestable.
Il est de fait contesté dans le pays, puisqu'il y a des manifestations. Alors après, chacun s'en fait son opinion, et je sais qu'on peut avoir mille désaccords sur la politique vénézuélienne. Ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, la France doit tenir un discours qui est indépendant en la matière, et moi j'alerte sur l'atlantisme permanent qui fait que dès que M. Trump sort un tweet sur ce genre de situation, M. Macron court derrière. Ça n'est pas possible, et en matière internationale, nous ne reconnaissons qu'une seule force, qui est l'ONU, et c'est à elle aussi de gérer ces questions. Je tiens à ce que l'on respecte le droit international et à ce que la France ait une position non alignée.
Grégoire est en ligne avec nous au 39-21 dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir.
Je crois que vous serez le dernier ce soir, mon cher Grégoire, allez-y. Votre question pour Adrien Quatennens.
Bonjour Monsieur Quatennens. Alors moi je suis coordinateur national des jeunes générations et beaucoup de responsables politiques de gauche. J'ai lu dans Libération.
Le mouvement de Benoît Hamon. On est d'accord Grégoire.
C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc j'ai lu dans Libération l'interview donnée par Jean-Luc Mélenchon. Il a évoqué la nécessité de se donner rendez-vous après les européennes et de bâtir une fédération populaire. Donc à première vue, moi je suis plutôt favorable à l'idée de penser une démarche de rassemblement afin de faire grandir l'espoir d'une alternative politique émancipatrice, sociale, écologiste. Donc ma question elle est simple, est-ce que c'est de l'esbroufe, juste une manœuvre stratégique pour finalement enrayer la chute dans les sondages, ou bien est-ce que c'est réellement l'expression d'une volonté de faire ensemble, de se reparler entre gens de gauche, entre écologistes, entre citoyens qui aspirent à plus de justice sociale. J'aimerais bien avoir votre avis, M. Quatennens, là-dessus, quelques précisions pour mieux comprendre. Parce que, et là, je reprendrai les termes de Clémentine Autain, députée France Insoumise, qui disait qu'il fallait, alors vis-à-vis de cette déclaration, associer et non vassaliser Il faudra abandonner les tentations d'une centralité dominante, car le pluralisme est une richesse.
Grégoire, Adrien Quatennens, puis-je vous répondre ? Il nous reste une minute. C'est vrai, vous avez tellement en commun.
Bonsoir Grégoire. Bon, d'abord, ce que je veux dire, c'est que je sais que la France insoumise est vécue par beaucoup comme finalement un parti politique comme les autres. En réalité, nous avons conçu un mouvement précisément parce que nous voulions être un label commun qui peut être mis en partage. Alors, dans votre question, vous avez parlé effectivement de la fédération populaire que propose Jean-Luc Mélenchon, et juste après, vous avez dit, moi je suis d'accord avec le fait qu'il faille se rassembler. Alors précisément, pourquoi nous avons choisi le terme de fédération et pas de rassemblement ? Parce que pour nous, le rassemblement, c'est souvent la tentation de ne pas mettre de contenu politique, plus exactement de mettre nos désaccords, y compris à distance. Alors que la fédération nécessite de s'accorder sur un contenu. Et je crois que précisément aujourd'hui, quand on parle de fédération populaire, chacun doit bien comprendre que l'on ne parle pas d'accord d'appareil politique, mais que toutes celles et ceux, membres ou non d'organisations politiques, syndicales, associatives ou membres, j'insiste, d'aucune organisation, puissent se retrouver sur un contenu. Il s'agit de deux choses, résister à l'offensive de M. Macron et aussi se préparer à gouverner autrement ce pays. Et je crois que ce soir, on a donné quelques lumières sur la manière dont nous voulions procéder.
Merci beaucoup Adrien Quatennens et merci à Grégoire qui a posé sa question au 39-21. On est arrivé au terme de cette émission. Ah si, j'ai une question que je voulais vous poser. Vous faites de la sieste, Adrien Quatennens ?
Non, mais on me l'a conseillé, on me dit que ça peut servir. Je dors trop peu en fait la nuit, on m'a dit que c'était très efficace. J'aurais peut-être m'y mettre.
Écoutez, il paraît que c'est très bon contre l'hypertension. On a débattu, on a eu énormément d'appels là-dessus ce soir. Je voulais vous poser la question.
Vous la sieste ?
Plus le week-end. Adrien Quatennens, merci beaucoup d'être venu dans le studio d'Europe 1. Répondre très librement aux questions de nos auditeurs ce soir au 39-21. Il est 19h57, l'heure de saluer Karima Charny. Bonsoir Karima.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Très bien et vous ?
Bah, très bien. On a enlevé Aladdin, Jasmine sur le
oui,
t-shirt.
Absolument, on est plus simple aujourd'hui puisqu'on... On va célébrer un anniversaire, vous le savez sûrement, l'occasion de l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Emmanuel Macron a reçu son homologue italien au château d'Amboise et du Clos Lucé pour célébrer l'amitié franco-italienne. Et bien nous aussi dans musique, on va la célébrer cette amitié.
Attention.
Mais à notre sauce.
Oh là là, vous savez, si je dois choisir une chanson pour partir sur une île déserte, c'est celle-là.
C'est vrai.
Je la connais par cœur. Ricky et Poveri, Sara Perchetti à moi. Je la chanterai une autre fois si j'étais pas en retard. Karima Charny. Belle soirée à vous en musique.
Merci.
Vous pouvez me passer ça pendant deux heures, je serai sur la piste.
Et bien demain, je remets.
À demain, Bline.
À demain, 17h. Merci Mathieu Béliard. À tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.